Eh ben, il est 8h12 et les 8h13 même. Et en studio, on reçoit Thibaut et Natalia. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, je vous laisse vous présenter déjà vous-même. Allez, Natalia ou Thibaut qui commence.
Voilà. Oui, bonjour, Natalia Hirtz. En fait, moi, je suis chercheuse formatrice au GRECEA. Les GRECEA, c'est les groupes de recherche pour une stratégie économique alternative. Et c'est une association en éducation permanente. Voilà, et bah, GRECEA, il coordonne aussi un réseau qui est le réseau Écosphère. C'est un réseau de des associations, des syndicats et des chercheurs et des chercheuses en économie politique.
Voilà. Et moi, c'est donc Thibaut Scoyer. Je travaille à la Revue Politique, à une revue d'analyse et de débat qui est aussi reconnue en éducation permanente.
Oui, bah Radio Panique aussi.
Voilà, c'est ça. On est entre nous.
En famille.
C'est tout à fait ça. On est en famille et cette famille de l'éducation permanente, mais du secteur associatif plus largement, c'est justement le sujet d'une rencontre organisée ce jeudi, j'espère pas me tromper.
Vendredi,
ouais. Voilà.
Vendredi 23.
C'est ça. Vendredi 23, voilà. Bon.
Alors, qui est complète, hein, on peut le dire dès maintenant, mais ça ne nous empêche pas ce matin de parler du sujet, parce que c'est quand même un sujet vaste et en même temps important. Donc, ce sera la présentation, entre autres, hein, du bouquin de Lily Zalzette et Stella Fine, « Te plains pas, c'est pas l'usine, l'exploitation en milieu associatif ». Donc déjà, le titre est hyper précis, voilà, on sait tout de suite de quoi on parle. Le bouquin est sorti, si je ne dis pas de bêtises, en vrai, il y a 2 ans à peu près.
Oui, c'est ça, en 2020.
C'est ça, et puis il y a eu tout plein de Covid partout, voilà. Ce bouquin, donc, vous l'avez sans doute découvert quand il est sorti, pour vous deux, et là c'est l'occasion en fait que les autrices viennent en fait à Bruxelles, et en parlent aussi directement. Alors là, on est dans un contexte français, dans le bouquin, mais on a quand même énormément de similitudes. Je vous laisse en parler peut-être.
Oh, je veux bien, oui. Ouais. Bah oui, c'est assez étonnant parce que donc ce livre est le fruit d'une enquête et d'une expérience militante effectivement dans le monde associatif français. Mais quand il arrive en 2020 en Belgique l'associatif est quand même un monde en soi, il a tout de suite été très marquant en fait. Le bouche à oreille a très très vite fonctionné, les gens en parlaient. Moi, c'est dans ce cadre-là que je l'ai découvert, qu'après j'ai eu la chance de pouvoir le chroniquer pour le journal des jeunes FGTB camarades et puis pour la revue politique. Et donc oui, clairement, le constat que font les deux autrices dans ce livre, même si il part d'un contexte qui n'est pas celui de la Belgique, en fait, il le décrit presque parfaitement, à tel point que ça semble un peu miraculeux ou au contraire terrible que l'exploitation sous les formes qu'elles décrivent en fait soit exactement les mêmes entre la France et la Belgique. J'imagine qu'on va rentrer dans le vif du sujet après.
On peut y aller même maintenant. Hein.
Oui, je peux embrayer.
Ah oui, complètement.
Il y a beaucoup de choses à dire évidemment, et on va pas résumer le livre. On va aussi laisser le plaisir aux gens de voir le plaisir. Encore une fois, c'est pas un sujet très gay, mais en tout cas.
C'est clair, ça révèle plein de choses.
Mais en tout cas, voilà, de pouvoir le découvrir. Mais le fond en fait du livre tient dans son titre. Te plains pas, c'est pas l'usine. C'est quelque chose qu'on a entendu sous des formes peut-être plus légères, mais qu'on a tous plus ou moins entendu si on a travaillé dans le secteur associatif. Moi, sans citer de nom ou d'association, dans un entretien d'embauche, on m'a déjà dit. Bon voilà, le travail c'est le travail, mais il y a du bénévolat à côté, quoi. Et c'est compris dedans. Et ça c'est quelque chose, voilà, qui est très généralisé, cette conception d'un travail pour le bien commun, qui du coup nécessite qu'on se sacrifie un peu.
Qu'on soit dans la dévotion, quoi.
Absolument, absolument. Et ça c'est quelque chose qu'elle décrive très très bien, le fait que, par exemple, une mauvaise paye, de mauvais horaires, de mauvaises conditions de travail, un mauvais, je mets ça avec des gros guillemets, management, tout ça peut être accepté.
Ou pas de guillemets, hein, même. Hein.
Ou pas de guillemets, effectivement. Parce qu'évidemment, ils sont très critiques vis-à-vis de ça, de la direction associative. Mais donc voilà, en fait, elles font un portrait un petit peu global de quelles sont ces formes d'exploitation dans le milieu associatif. Et je pense que la plus grande force du livre, c'est de briser une certaine hypocrisie ou un certain tabou, en fait, C'est-à-dire de penser que parce qu'on est dans l'associatif, mais ça vaut en fait pour aussi pour d'autres secteurs, hein, les entreprises à but sociaux, écologiques, les ONG, je pense que Nathalia va pouvoir en parler mieux que moi. Mais donc, pour, dans tout ce monde-là, puisqu'on travaille pour les autres, puisqu'on travaille pour le bien commun, on serait amené à accepter en fait des choses qui ne sont pas acceptables. Et on nous dira toujours, mais ne vous plaignez pas, vous n'êtes pas dans le privé. Ou... ne te plains pas, t'es pas à l'usine. Ce qui revient à peu près enfin, à, la même, à ce même argument.
Mais on avait, on avait parlé dans notre livre, paru à peu près en même temps, qui était Souffrance en milieu engagé, enquêté dans des entreprises sociales, qui est exactement la même démarche. Enfin, voilà, enfin, donc là, plus pour le côté oui, entreprise sociale, mais on te dit, voilà, enfin, tu bosses à la Croix-Rouge, par exemple, voilà, tu sais. C'est une structure importante, mais tu fais ça pour le bien de l'humanité, donc sacrifie-toi.
Oui, tout à fait. C'est vraiment ce, oui, cette dimension sacrificielle et qu'elles décrivent comme étant destructrice de l'humain. En fait, quand le livre arrive en 2020, ça fait déjà des années qu'on parle dans le milieu associatif de burn-out, d'épuisement, du fait que bah, les gens en fait sont, oui, sont fatigués, en fait, qu'il y a vraiment cette atteinte physique, morale, qui devient de plus en plus importante et qui en même temps, encore une fois, n'est pas publicisée, n'est pas rendue publique de la même manière que dans le privé ou par exemple dans l'administration où ça apparaît plus naturel en fait de dénoncer ces formes-là, alors que dans l'associatif, au contraire, effectivement, plutôt taire sa souffrance, la réserver à soi. Parce que on ne veut pas atteindre l'association, par exemple. Hein, l'image des associations est souvent très importante, parce que comme elles défendent des buts, si on se rend compte qu'en fait elles fonctionnent de manière négative ou qu'elles exploitent les gens qui travaillent pour elles, tout à coup le château de cartes s'effondre et en fait évidemment les gens n'auront plus confiance en fait.
Dans bah, enfin, c'est qui, et c'est, alors que ça n'enlève rien au but originel de l'association, quoi. Enfin, ouais, enfin, c'est juste la manière, quoi.
Nathalia, tu voulais dire quelque chose là-dessus?
Moi, ce qui m'intéresse dans ces bouquins, c'est qu'il y a, en fait, voilà, c'est Lily et Stella, elles viennent de deux expériences assez différentes. Et donc, il y a deux angles, deux points de vue qui sont abordés et qui sont tout à fait complémentaires pour pouvoir comprendre l'autre. Voilà. Donc, l'une, elle a une approche plutôt militante, hein. Et l'autre, elle a une approche plutôt militante aussi, mais syndicaliste en tant que salarié de l'associatif. Et donc là, on a non pas seulement cette approche de la souffrance au travail et les conditions de travail, mais aussi quel est le rôle et quelle est la place de l'associatif. Ce que quelque part aussi, ça permet de comprendre les conditions de travail dans lesquelles on est. Et je trouve assez intéressant de remonter un peu à l'histoire, parce qu'on voit aussi pas des similitudes avec l'associatif en Belgique. On s'est dit, il y a quand même quelque chose de structurel, de systémique. C'est pas l'associatif en Belgique ou en France. Mais déjà, les dates, en fait, de naissance, donc début du XXe siècle, autant en Belgique qu'en France, est quelque part comme une forme de, on pourrait dire, de intégration des associations nées du mouvement ouvrière. Donc, à un moment donné, c'est dans cette fête de on peut pas aller contre, donc on va plutôt l'intégrer. Donc l'associatif, il est institutionnalisé. Et ensuite.
Ce qui amène une forme de contrôle, en fait, de l'État.
C'est qu'il y a une forme de contrôle. En tout cas, au départ, c'est une forme de contrôle, de pacification, on pourrait dire, du fait de dire, OK, oui, on peut pas vraiment aller contre, on va pas être dans la coercion. On va laisser faire, mais sur une certaine forme de contrôle. Du moment où c'est... Et ce qui était quelque part à ce moment-là une forme de contrôle, années 70, c'est vrai que ça devient aussi une manière de diminuer les dépenses. Sur le climat néolibéral, donc dans un contexte néolibéral, quelque part, on le voit ici clairement en Belgique, qui est plus fort qu'en France, on est dans une crise de chômage, donc il faut diminuer le nombre de chômeurs, donc l'associatif devient quand même un endroit où on va quand même utilisé pour ses emplois, pour ses postes, pour augmenter l'emploi, mais aussi pour diminuer les dépenses. Puisque, donc, du coup, les mondes associatifs deviennent de plus en plus, ils font de plus en plus la sous-traitance
De l'État, en fait.
L'État, ouais. Et donc, ils commencent à remplir de rôles qui, auparavant, étaient faits par des fonctionnaires publics. Donc, c'est ni les mêmes conditions, ni les mêmes salaires, et c'est l'associatif qui les font. Ce qui est quand même... Et puis, voilà, on voit de plus en plus, depuis les années 90, 2000, que ceci commence à s'accélérer, notamment avec la diminution de ces subventions structurelles qui avaient été, autant en France qu'en Belgique, donc avaient été très importantes, notamment pendant les années 70. On a une multiplication de ces associations. Quoi. Et puis, fin des années 90, 2000, notamment après 2015, on va voir de plus en plus les appels à projets et des financements de plus en plus privés, vu que les subventions structurelles, elles diminuent, ce qui oblige de plus en plus l'associatif à aller chercher quelque part des fonds à l'extérieur.
Pour recontextualiser comme ça, c'est que donc les associations recevaient en fait des subsides qui permettaient de pouvoir financer. Donc quand tu dis le structurel, ça veut dire les emplois, ça veut dire les activités, ça veut dire enfin voilà le fonctionnement en fait global de l'association, et donc qui n'était pas divisé en sous-projets, de sous-projets, et qu'aujourd'hui, en fait, il y a des appels à projets et plus des subventions globales. Et donc, les associations se retrouvent un peu ou beaucoup, je ne sais pas, en concurrence, en fait, face à ces appels à projets, et pour avoir finalement des petites miettes d'argent, avec aussi donc, des activités qui ne sont pas nécessairement à la base de l'essence en fait de l'objet de l'association. Et donc ça devient le bazar complet, puisque les travailleurs donc travaillent à faire des dossiers.
Voilà. Ouais.
Alors on fait des dossiers pour avoir
une charge administrative
des trucs
considérable. Mmh. Oui.
Et donc on n'est plus dans le travail associatif de base qui était sur de terrain ou voilà. Et donc comment on fait avec tout ça aujourd'hui?
Ouh, ça, c'est une question large. On aura du mal à répondre, je pense, ici, comme ça. Mais dans le livre, les autrices parlent aussi de ça, en fait, de la lutte, parce qu'elles appellent les luttes autour du milieu associatif. Alors, j'aimerais juste rajouter un petit point chronologique, parce que donc aujourd'hui, dans le système de subsidiation en Belgique, il y a quand même une relative autonomie qui est accordée aux associations, je parle politiquement parlant, en termes de liberté d'expression, de ce qu'elles peuvent faire, même si elle est quand même relativement floue, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un principe d'autonomie gravé dans le marbre qui dirait que les subsides ne sont pas liés à ces questions-là. Donc, il peut y avoir des décisions qui sont prises de couper des subsides, d'arrêter de manière assez arbitraire. Par contre, en France, on a atteint un autre degré assez récemment, avec notamment la loi dite séparatisme, qui impose de signer un contrat républicain qui donne tout un tas donc d'obligations à l'association qui est subsidiée par l'État. Et on voit aujourd'hui les premières conséquences de ça. Je ne me rappelle pas le nom de l'association exactement, mais à Lyon, par exemple, on veut arrêter de subsidier une association qui fait un atelier désobéissance civile, parce que c'est pas républicain. Et donc évidemment, on n'en est pas encore là en Belgique, très heureusement, mais il y a des demandes en Belgique d'inscrire la neutralité comme étant une condition sine qua non de la subsidiation. Sauf qu'évidemment, ce qu'on met dans neutralité, politiquement parlant, ça peut varier très très fort du bord politique d'où on vient, etc. Et donc, c'est aussi pour voilà dire qu'aujourd'hui, on vit un moment où l'autonomie des associations, elle n'est pas du tout actée, elle n'est pas du tout définitive. Et c'est aussi pour ça que on a dit le livre a aussi fort touché, c'est que comme dit Natalia, il décrit ces services rendus à l'État, mais dans la précarité des appels à projets, etc. Mais l'avenir du secteur lui-même paraît engagé, en fait. On sait qu'il y a eu une réforme du code des sociétés et des associations en Belgique, donc du coup les associations sont revenues dans un code des sociétés assez récemment, qui a été très fort décrié dans le secteur, hein. Il faut le dire, il y a eu beaucoup de choses qui ont été écrites, dites, il y a même eu, je pense, une ou deux mobilisations vraiment personnelles, mais quand même, on voit voilà que le secteur sent que, même s'il est au fond essentiel au pouvoir public pour répondre aux questions soulevées par Natalia, c'est-à-dire l'emploi, les services qui ne sont pas rendus par l'État mais donnés aux associations, bah, malgré tout, on sent qu'il est fragile. Et je crois que c'est aussi pour ça que le livre a autant touché et qu'il parle autant aussi aux gens. C'est parce que il y a clairement une crainte en fait pour le secteur qui existe et que le livre révèle un petit peu, même si encore une fois il est arrivé juste au bon moment, il est arrivé avant la pandémie qui a encore renforcé tous ces processus là. Et voilà, il a frappé juste au moment où je pense tout le monde était commencé à sentir cette peur entre guillemets
Parce qu'on a ces échos de France, mais on a aussi, enfin, on voit aussi très bien ce qui se passe, notamment dans le secteur culturel finalement, où il y a eu avec le système belge, comme il est, enfin, donc tout le secteur culturel qui dépend de communauté région, côté flamand, a une majorité NVA qui a justement un peu joué de ce truc de contrat républicain, de voilà, enfin, mais on va pas subsidier des opposants culturels politiques et qui a rogné dans les budgets de manière assez sévère, quoi. Donc on se retrouve comme ça entre avec les deux feux, enfin le feu flamand qu'on voit, parce que voilà, enfin c'est aussi des associations flamandes bruxelloises qu'on côtoie, et puis enfin culturellement proche ce qui se passe en France. Et donc il y a des réflexions militantes qui s'y passent, et donc oui, enfin clairement il y a encore un espace de liberté encore assez tranquille côté associatif francophone, quoi, mais on sent la pression des deux bouts, quoi.
Oui, tout à fait. Et ce qu'on voit en Flandre vraiment significatif par rapport à ça, de voir le mouvement flamand qui historiquement a été très fort dans la subjugation culturelle pour des raisons identitaires entre guillemets, pour créer l'identité flamande, pour la nourrir, etc. Ça a été quelque chose de très important. Et le tournant avec la NVA qui est quand même un parti extrêmement néolibéral, il faut le dire comme ça, et qui effectivement justifie les coupes pour des raisons budgétaires, de gestion, etc. Mais en fait, on est
dans cette politique,
c'est ça,
pure derrière.
Exactement, exactement.
Et là, justement, on est en train de parler beaucoup de thunes, en fait. Et c'est marrant, parce que c'est justement ça qui fait aussi défaut, c'est d'être dans cette logique économique, parce qu'on n'a presque pas le choix, en fait, dans les associations. Fort sur comment l'association est gérée, et donc autant sur les bénéficiaires que sur les travailleurs. Et je ne sais pas si je suis très claire. Voilà. Mais alors la logique économique prend le dessus en fait surtout. Et donc comment on retrouve du sens en fait à un moment donné à ce qu'on fait?
Oui, effectivement, la logique économique elle prend le dessus du moment où on se trouve dans des organisations qui cherchent des emplois. Et donc effectivement pour suivre, pour pouvoir payer ces emplois, pour pouvoir continuer avec les projets de l'association, mais il faut trouver l'argent. Et les problèmes, c'est que on se trouve de plus en plus, notamment à Bruxelles, quand c'était la réforme des ACS, par exemple, c'était qui finance quand même, il faut dire, 10 000 emplois en public, en associatif à Bruxelles. On est passé d'un financement de 100% à 95% de ses salaires. Certaines associations ont dû aller chercher de l'argent ailleurs, parce que sinon, même si c'est 5%, on se dit que c'est pas grand chose. Mais quand on fait pas de la vente des services, et que, on est dans l'éducation permanente, normalement, on est censé donner des formations, des conférences gratuites, ou à la limite, si on vend une revue, un prix accessible, non? Donc 5% de ces salaires, ça fait beaucoup. Sans compter, par exemple, le problème maintenant des associatifs avec les indexations de salaires, quoi, aussi. Tout ce qui est les subventions structurelles ne sont pas forcément indexées en 10%. Donc, on se trouve de plus en plus dans ces problèmes. Et c'est pour ça, Thibault, il vient d'expliquer, depuis 2019, l'associatif se trouve intégré dans les codes des sociétés et des associations, donc c'est-à-dire que...
Des entreprises, en fait, ouais, c'est ça.
Voilà, c'est-à-dire que les associations continuent à se différencier des entreprises commerciales dans le fait qu'ils ne peuvent pas distribuer à leurs membres les bénéfices.
Il n'y a pas d'actionnaire, quoi, en gros.
Voilà. Mais par contre, on peut réaliser des activités commerciales. Quelque part, c'est ce qui s'est fait. C'est déjà, hein, c'est-à-dire du moment où ils commencent à diminuer les subventions structurelles, il faut aller faire de la vente de services. Donc, c'est une manière de légaliser quelque chose qui s'est fait, mais c'est aussi pour nous pousser à dire, ben voilà, dorénavant, c'est normal, il faut aller de plus en plus vers ça pour pouvoir survivre. Et ceci a énormément d'impact sur nos conditions de travail. Parce que quelque part, on nous mène de plus en plus vers des appels approchés qui sont de plus en plus courts. Avant, c'était 5 ans, ensuite c'était 2 ans. Là, maintenant, bah, c'est de plus en plus des projets pour un an, dans lesquels on ne sait pas faire grand-chose. Donc finalement, bah, on a passé la plupart du temps à faire des papiers et à justifier et à préparer un projet qu'à faire quoi que ce soit. Donc il y a une perte de sens du travail, de l'objectif, de ce qu'on fait. Et ensuite, dans ces appels au projet, ben, ce n'est pas l'association, ce n'est pas l'employé qui décide quel va être le projet par conviction, mais c'est tout simplement un besoin où autant l'objectif que les moyens par lesquels on va arriver sont déjà a priori déterminés par l'appel qui est fait par les pouvoirs qui fait cet appel approché.
Avec une rhétorique aussi parfois pas simple, voilà, et avec une exigence en fait de résultats, de chiffres, de formes de public en fait, où on a déjà décidé qui était le public, comment le nommer, et parfois dans des logiques aussi hyper racistes. Enfin, il y a quand même des choses fortes qui sont paradoxalement amenées comme ça aux associations. Du coup, qui sont obligées de se mettre dans ces appels à projets avec des justifications, et on se dit non mais ça va, de toute façon on aura un peu les thunes, mais on va faire quand même comme on veut. Et donc il y a un paradoxe un peu dans tout ça.
On croit toujours qu'on va faire comme on veut, mais en fait c'est toujours très complexe aussi. Quelque part on est un peu limité, et puis il y a cette besoin de pouvoir avoir plus de projets, ou que les projets soient renouvelés, ou avoir les suivants projets, et donc de rester attirant aux yeux de pouvoir qui donne les subventions, quoi, en fait. Donc on ne peut pas aller à l'encontre, parce qu'on sait très bien que voilà, on aura eu l'argent maintenant, mais que la prochaine fois, on ne l'aura pas.
Parce qu'il y avait une perte d'autonomie, en fait.
Oui, et qui se fait un peu en sous-main, parce que comme le dit Natalia, en fait, il y a plein de choses qui sont pas dites, qui sont implicites. On va pas, si on nous demande de faire un appel à projet qui a été vraiment marketé entre guillemets par le pouvoir politique pour x et y raison, on va pas évidemment rendre des conclusions qui sont à l'opposé de ce pouvoir politique, parce qu'on sait que le prochain projet, on en a besoin en fait, et tout simplement parce que des gens travaillent. Et donc on en revient à la précarité, au fait de on n'a pas envie de virer quelqu'un, on n'a pas envie que l'association s'arrête. Il y a toujours des bonnes raisons, et des bonnes raisons, je dis pas ça de manière ironique, des raisons vraiment fondamentales qui font que on accepte en fait des compromis. Très très belge, hein, le compromis à ce niveau-là. Mais je pense qu'en plus de ce que dit Natalia, il y a aussi un changement de culture vraiment structurelle, culture de l'administration, culture et aussi du management qui est en train de s'opérer pour l'instant, où on voit de plus en plus d'associations où en fait les conseils d'administration sont composés en général de gens qui sont déjà bien installés, qui aussi peuvent amener leur position, leur réseau dans l'association, mais qui du coup sont aussi beaucoup plus influencés par cette évolution-là, dans l'administration publique notamment, où maintenant le néo-management c'est devenu la base en fait.
C'est monnaie courante.
Voilà, c'est monnaie. Et quand du coup on décide qui on va prendre pour diriger une association, on décide comment il faut gérer une association, il y a plein de logiques comme ça du néo-management qui finissent par arriver dans les associations, parfois de manière très absurde, parce qu'il y a des associations qui sont très très grandes, hein, qui sont comme des entreprises, il y en a qui sont de 10, 2 personnes, enfin voilà, ils sont très petite taille, donc évidemment qu'ils ne peuvent pas du tout s'adapter à des techniques de management qui sont prévues pour des boîtes géantes comme à la Silicon Valley, ce genre de choses, mais voilà, il y a vraiment ce changement de culture au sein de l'administration publique qui s'attend à de la bonne gestion, à de la professionnalisation. Mais derrière ces mots-là, en fait, il y a cette rationalisation managériale qui est vraiment, enfin, est-ce qu'on a besoin d'expliquer pourquoi elle est destructrice de l'humain et pourquoi elle atteint vraiment, en fait, les travailleurs et les travailleuses sont ceux qui subiront à la fin ces changements-là. Et je crois que ça, c'est un des points, à mon avis, en Belgique, qu'on doit pas éluder, en fait. Si on veut que l'associatif puisse se défendre, puisse justement faire front contre des évolutions, comme on l'a vu en Flandre, comme on l'a vu en France, etc. En fait, il faut aussi que, ils prennent conscience de ces problèmes-là internes, pour qu'en fait, tu disais comment retrouver du sens. Ben, en fait, les gens ne se battront pas s'ils n'ont pas de sens. Ils ne défendront pas leur autonomie au-delà de leur travail. Ils doivent défendre leur travail, ça c'est évident. Mais ils ne défendront pas leur autonomie et la liberté, entre guillemets, de pouvoir refuser un appel, de pouvoir ne pas faire quelque chose qu'ils pensent être pas juste, s'il n'y a pas de sens dans leur travail. Et donc ça, pour moi, c'est vraiment un des gros points qu'il faut discuter, travailler au sein de l'associatif. Et il y en a qui le font, hein. Je prétends pas que ça vient de nulle part. C'est des discussions qui existent, mais qui sont pas encore assez générales, qui sont pas encore assez ouvertes et explicites aussi.
C'est complexe aussi, parce que pour les travailleurs et travailleuses dans l'associatif, ben, chacune est un peu dans son association, et c'est toujours difficile, en fait, de partager avec d'autres, de dire, mais là, en fait, moi, dans ma structure, ça va pas du tout. Du coup, il y a quelque chose d'un isolement, en fait, à chaque fois. Et donc, comment faire aussi ensemble à un moment donné, c'est pas si simple.
Si je peux ajouter une toute petite chose, c'est clair que c'est des discussions sur comment ça se passe dans mon association, ça ne va pas du tout, qu'on a souvent autour de café, de verre, dans le milieu privé, en fait. Et une des raisons, qui n'est pas la seule, évidemment, c'est que le monde syndical a un vrai problème d'implantation dans l'associatif, pour tout un tas de raisons, notamment la taille des associations, qui font que les employeurs, les CA, n'ont pas obligation, en fait, de fonder des cellules syndicales. Enfin, non, les salariés ne peuvent pas le demander, l'exiger si ils en ont envie. Et aussi un manque de culture syndicale, tout simplement, qui, à mon avis, pour le coup, est assez différent de la France. Et ça, c'est peut-être une des choses qui différencie un peu les deux situations, parce qu'il y a quand même une histoire de l'implantation syndicale dans les associations en France qui est plus importante, même si la précarisation fait que, pour les mêmes raisons, quand on est 6 mois, 1 an, 2 ans dans une boîte, ben forcément, enfin dans une association, on n'a pas tendance forcément à garder cette culture du syndicat, etc. Mais ça, je pense que c'est aussi un point, le fait de savoir comment les syndicats peuvent investir l'associatif, et inversement, comment l'associatif peut peut-être donner des idées aux syndicats pour changer un peu leur méthode et leur manière de s'implanter dans ce genre de petites structures et de structures un peu différentes.
Donc justement, enfin, par la création d'espaces de partage et de mise en commun des travailleurs, des travailleuses, qui est le rôle des syndicats, exactement. Mais oui, enfin, mais ça vient aussi, enfin, du fondement, enfin, engagé, de se dire, mais voilà, enfin, on est une petite association, on n'a pas besoin de syndicats, on n'a pas besoin de protéger même nos travailleurs, nos travailleuses par un syndicat, parce qu'on est les gentils.
Et tout va bien.
Et tout va bien aller. Voilà, enfin, mais voilà, enfin, ça bloque et ça fait partie des blocages qui empêchent une mise en commun des expériences. Voilà, enfin, comme tu dis, on va se retrouver un soir dans un café à discuter entre personnes qui chacun, voilà, enfin, va parler de son expérience professionnelle et va se dire, enfin, que finalement, enfin, aussi bien dans l'associatif que dans le privé, on est face au même travers. Mais voilà, enfin, pas de structure globale pour échanger et travailler ensemble, surtout que, enfin, voilà, enfin, après, les syndicats ont la même opposition, ou le même interlocuteur qui est l'État, et voilà, enfin, les syndicats voient très bien comment c'est difficile de négocier quoi que ce soit, surtout quand c'est de l'argent, et c'est ça qui manque au final beaucoup aux associations pour pouvoir travailler de manière confortable. Ouais, enfin, c'est une certaine pérennité, stabilité, une certaine assurance que tout va rester tranquille pendant 4, 5, 10 ans. Et ouais, enfin, pouvoir développer ses propres projets et pas être dans la cour au projet, rendre tous les dossiers qu'il faut à temps et exactement comme on attend qu'on les rentre, quoi.
Après, je pense que les problèmes, c'est comment représenter l'associatif. C'est tellement divers. Là, on disait, oui, c'est vrai que dans l'associatif tel qu'on connaît, c'est plus, je pense qu'on fait, là, on parle plutôt culturel, secteur des petites associations. Mais il y en a des très grosses, par exemple, il y a des hôpitaux qui font partie de l'associatif. Et là, ça se passe très différemment. Là, il y a quand même, les actions syndicales, etc., sont différentes, quoi. Il y a plus de. Mais sinon, l'associatif tel que quelque part on le parle, où c'est des petites associations plus culturelles, éducation permanente ou en santé, mais plutôt dans les sens maison médicale. Je pense que, effectivement, il y a quand même ces problèmes-là de s'identifier quelque part à l'association. On est en petite équipe, on est tous dans la même galère et on a mal quelque part identifié parce qu'il n'y a pas un employeur. C'est quand même un conseil d'administration, c'est tous des bénévoles, ces membres du conseil d'administration, ils n'exploitent pas notre travail, quoi. Ils sont pas là pour nous exploiter ou pour tirer des bénéfices de quoi que ce soit. Donc, comment est-ce qu'on fait pour se mettre ensemble entre différentes associations? D'autant plus qu'on est de plus en plus mis en concurrence, notamment par ces systèmes d'appel à projet, par rapport à quelles revendications et vers qui on adresse ces revendications. Souvent, c'est ça le problème.
Comme il y a vraiment ce caractère insidieux de la pénétration de ces réflexes managériaux, etc. Ça peut être assez difficile de se rendre compte que, non, on ne va pas répondre à cet appel à projet parce qu'on n'a pas envie de fonctionner sur un système comme ça, même si, en l'espèce, pourquoi pas, et oui, ce serait toujours bien d'avoir un peu d'argent et ça permettrait d'employer telle personne qui, temporairement, qui est juste bénévole pour le moment et qui a besoin de ça. On peut accepter des projets pour aider comme ça, mais ça dénature lentement. Il y a vraiment ce truc de changement lent contre lequel il est difficile de faire quelque chose parce qu'il est difficile de s'en apercevoir et que c'est des petites touches comme ça où on va dire vous avez accepté des projets, vous avez réussi à les mener, etc. Et donc on peut supprimer vos autres subsides plus pérennes parce que en fait vous arrivez très bien à vous débrouiller sans, quoi. Mais pour trois assos qui vont arriver à se débrouiller sans et à faire des projets parce que sur investissement militant va y avoir une asso qui va pas avoir ça et on perd beaucoup de monde en route comme ça.
Oui, tout à fait. Et comme tu dis, les projets, les accepter, c'était simplement remplir une page A4, discuter avec une personne, ce serait déjà une chose. Mais comme on l'a déjà dit, le temps que prennent les appels à projets. Je veux dire, nous, on est en éducation permanente, on est privilégié entre guillemets parce qu'on a un système de financement qui est quand même relativement justement qui promeut une autonomie dans la longue durée, etc. Mais tous les gens qui ont dû faire un rapport d'activité en éducation permanente savent à quel point c'est des opérations bureaucratiques, mais vraiment qui sont aberrantes en fait, et qui demandent un mois de travail pour la personne qui va s'en charger. Et évidemment, ça c'est un cas encore une fois où nous on a de la chance. Mais quand on doit faire deux ou trois appels à projets par an, que chaque appel à projet prend un temps considérable à être fait parce qu'il faut remplir des questionnaires en ligne. Je suis désolé, je vais quand même le dire comme ça, qui sont très mal faits, mais qui sont pas pensés pour être ergonomiques, qui sont pas pensés pour être facilitants. Au contraire, en fait, c'est un premier filtre. Si on connaît pas le système bureaucratique en Belgique, qui est quand même ce qu'il est, en fait, on a déjà perdu. On a déjà éliminé, en fait. Et donc ça c'est quelque chose, qui est effectivement très très injuste et qui aussi pose des questions ça facilite vraiment le travail d'association, j'ai envie de dire de la culture haute, de la culture qui est déjà en fait très à l'aise dans ce monde-là. Par contre, quand tu veux fonder une association pour les jeunes, par exemple, je prends au hasard, t'as pas d'expérience dans ce monde-là, tu fondes une association, bonne chance. C'est vraiment extrêmement compliqué, à tel point d'ailleurs qu'il y a des associations qui aident d'autres associations à faire leur démarche, parce que et dont le but social, c'est devenu ça, en fait. C'est devenu d'accompagner les associations dans le labyrinthe bureaucratique.
C'est quand même comique.
C'est comique, c'est très belge. Hein. Mmh, c'est ça. C'est très...
Je me réjouis quand même d'apprendre que cette année-ci, à l'ULB, on a... En fait, ils avaient proposé un master en management associatif qui sont dû l'annuler, finalement, par manque d'inscrits.
C'est une très bonne nouvelle.
Oui. Ben, il faut savoir qu'effectivement, dans l'associatif, on avait de plus en plus les coordinateurs, coordinatrices qui étaient des personnes de terrain. Ben, deviennent de plus en plus, comme c'était à l'hôpital dans les moments, quoi, en fait. Ben, maintenant, même dans les petites associations, quoi, on voit de plus en plus de personnes qui viennent du monde du management ou alors qui vont aller faire des études pour essayer de renforcer, quelque part, ben, toutes les nouvelles demandes où ils ne s'en sortent plus. Pas énormément. Avec toute cette histoire des appels approchés aussi, ça a tellement explosé que même le monde de l'administration, donc pour faire les contrôles, il ne s'en sort pas. C'est pour ça aussi que bah, plus on multiplie les appels approchés, bah, plus ils vont aller vers des démarches de simplification. La simplification, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quelque chose qui était plus de l'ordre qualitatif va devenir de plus en plus quantitatif. Et donc, on va être de plus en plus évalué non pas par le fond de ce qu'on fait, du travail qu'on fait, mais par la forme. C'est-à-dire ben, combien de likes, combien de... Ben, surtout avec les réseaux sociaux, ben, c'est question de quantitatif, de la forme, de la visibilité, les connexions, les réseaux, les publics, etc. C'est multiplié. Et donc, ben, parfois, peu importe finalement quel est le projet, quel est l'objectif de ces projets. C'est ce qui importe, c'est que ça soit un succès. Le succès, c'est avoir un maximum de public ou de contacts. Et souvent, c'est ce qui amène aussi à aller vers des projets qui marchent, qui sont à la mode. Des problématiques qui sont à la mode, même des acteurs, quand on est en éducation permanente, quand on veut inviter... quelqu'un pour parler, mais on va plutôt aller chercher une personnalité assez hégémonique, puisqu'on sait qu'on va voir beaucoup de monde.
Que, il y a la logique de tête d'affiche, même là.
Ah, mais bien sûr, voilà. Donc, finalement, c'est difficile, parce qu'on finit tous par adhérer à cette logique. On ne se rend pas compte, on rentre petit à petit et puis finalement on est vraiment là-dedans et même lorsqu'on veut être critique, ben on fonce, on y va puisqu'il s'agit quand même aussi de la survie de nos associations et de notre propre emploi.
Et tout ça retombe vraiment sur les personnes qui travaillent, qui vont ben, remplacer même l'évaluation qualitative, le résumé du projet intéressant par une série de cases à cocher et de valider. Ok, on a fait une émission, elle a eu 300 auditeurs, c'est bon, on est validé. Enfin, on a diffusé le podcast à 15 endroits, etc. Donc c'est bon, on est dans les chiffres. Merci, oui. C'est ça qu'il fallait, quoi. C'est vraiment pas intéressant.
Cette émission sera dans notre rapport d'activité.
Hein. Dans notre site, c'est possible.
Voilà. Un autre paradoxe, il ne nous reste pas beaucoup de temps en soi, c'est aussi que du coup dans ces appels et autres, on demande quand même de faire des partenariats avec les autres, alors qu'on est déjà en concurrence. Il y a plein de choses hyper, hyper complexes comme ça. Et donc je rêve que les partenariats se multiplient avec une autre logique, quoi.
Oui, c'est en fait il y a plein de petites choses comme ça, les partenariats, mais qui peuvent partir d'une bonne intention, hein. Mais l'obligation du partenariat, c'est la même chose. Enfin, il y a plein de petites logiques comme ça sur oui la quantification de ce qu'on fait, comme dit Natalia. C'est assez amusant en fait parce que même pour les gens qui l'évaluent, pour les travailleurs administratifs de dans les ministères qui doivent vérifier. Ça devient un travail absurde en fait, parce qu'ils ont évidemment des critères objectifs. Je fais des guillemets, enfin les gens ne peuvent pas le voir, mais je fais des guillemets avec mes doigts. Ils ont des critères objectifs, mais qui évidemment sont jamais vraiment objectifs. C'est juste qu'ils objectifient quelque chose qui est une toute petite partie en fait de l'activité. Et eux, ben, ils ont aussi un travail en fait, donc ils doivent le faire. Et parfois, c'est aberrant. Je sais que les gens qui doivent lire pendant l'été nos rapports d'activité aussi, hein, ils sont parfois au bord de l'épuisement. C'est extrêmement difficile. Donc, en fait, c'est ça qui est vraiment le plus terrible dans ce système, c'est que toute la chaîne des travailleurs associatifs aux travailleurs de l'administration, en passant évidemment par les publics qu'on touche, en fait sont impactés par des logiques qui sont sans cesse évaluées, mais jamais justement sur le point de vue humain, sur leur impact pour la santé des travailleurs, des travailleuses, c'est ça qui est très absurde, c'est vraiment le serpent qui se mord à la queue.
Et les bénévoles y compris. Quoi.
Tout à fait, et c'est très typique du management encore une fois.
Mais il est déjà 8h52, Fred.
Il est déjà 8h52.
Est-ce que je peux dire oui, quelque chose? Parce qu'en fait, oui, malheureusement, la soirée vendredi, elle est complète. On aurait aimé faire rentrer tout le monde. On avait mis que les inscriptions n'étaient pas obligatoires. Mais puis finalement, on s'est trouvé avec 5-15 personnes qui étaient inscrites. Comme quoi, apparemment, ça montre bien que c'est pas des têtes d'affiche, mais c'est un enjeu important. Voilà, une problématique importante. Et donc, je dis, dire qu'on va quand même faire un enregistrement audio qui sera disponible pour celles et ceux qui ne vont pas aller vendredi, mais qui sera disponible dans les sites web des Écodosphères, en tout cas, et j'imagine que la revue politique aussi, au CADTM, parce que voilà, on le fait ensemble, donc voilà, après la soirée, vous pouvez aller voir dans ces sites-là, si jamais vous n'avez pas su y aller et vous voulez écouter l'enregistrement.
Et évidemment, lisez le livre. Le livre Te plains pas, c'est pas l'usine qui est à la base de tout.
Voilà, on rappelle de Lily Zelzet et Stella Finn. Voilà. Il est pas trop cher, c'est moins d'une dizaine d'euros.
7 euros, je pense, ouais, c'est une belle édition.
Donc, voilà. Fred, est-ce qu'on a le temps d'appeler dans l'espace ou...
Merci, on dit merci aux invités.
C'était de moi une question. Oui, on remercie Thibaut et Natalia, bien sûr.
Merci à vous.